Radio Kapi.
Lancement hier des travaux d'asphaltage des routes Kassindibeni, Butembo et Bunagana, Rutshuru, Goma dans le Nord Kivu. Travaux lancés par les présidents congolais et ougandais, une initiative de Museveni pour booster les échanges économiques entre la RDC et l'Ouganda. La chef de la MONUSCO condamne la multiplication des messages incitant à la haine tribale, à la violence et à l'hostilité entre les communautés à travers la RDC. Par ailleurs, la mission onusienne encourage le Parlement congolais à adopter la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie, proposition en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et puis, plus de 6000 tonnes de maïs abandonnées dans les champs à Bukangalonzo. Un groupe de députés descendus sur place pour enquêter parle de sabotage. L'un d'eux, Ado Ndombasi, élu de Kinshasa, est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Les présidents congolais et ougandais ont lancé hier après-midi des travaux d'asphaltage des axes routiers Kassindibeni, Butembo et Bunagana, Rutshuru, Goma au Nord Kivu, évalués à 223 kilomètres. La double cérémonie présidée par Félix-Antoine Tshisekedi et Yoweri Kaguta Museveni s'est d'abord déroulée en Pondwe côté ougandais et puis à Kassindi-Lubiri à côté congolais. Selon le président Félix-Antoine Tshisekedi, la construction de ces routes, qui est une initiative de son homologue ougandais, entre dans le cadre de sa vision d'intégration africaine. On écoute le président de la République démocratique du Congo dans ses propos recueillis par Martial Papi Mukeba.
J'aimerais lui exprimer aussi toutes mes félicitations parce que, à tout seigneur, tout honneur, cette initiative de la construction de cette route vient de lui. Je partage parfaitement son initiative parce qu'elle entre dans le cadre de ce qu'est ma vision sur l'intégration africaine. J'ai toujours dit que plutôt que de vivre en se regardant comme des ennemis avec nos frères, avec nos voisins, au lieu de construire des murs entre nous, il vaut mieux construire des ponts. Et cette initiative est vraiment un exemple de ce que nous devons multiplier comme échange entre nos pays et entre nos peuples.
Signalons que l'objectif de ce projet est de booster les échanges économiques entre la RDC et l'Ouganda. Mais avant le lancement de ces travaux des routes, les présidents congolais et ougandais ont eu un tête-à-tête ce même mercredi en Pondwe, ville ougandaise jumelle à la commune rurale congolaise de Kassindi-Lubiria. Leur échange a duré plusieurs minutes avant de lancer les travaux d'asphaltage des axes routiers cités. Le compte-rendu de Martial Papi Mukeba.
À son arrivée à Pondwe dans le district ougandais de Kasese, le président de la République a été accueilli par son homologue ougandais, Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Ont eu un tête-à-tête à huis clos. C'était sous une tente aménagée pour la circonstance. Près d'une demi-heure après, les chefs d'état-major généraux de la RDC et de l'Ouganda ont rejoint les deux chefs d'état à cette réunion. Même si rien n'a filtré de cette double réunion, plusieurs sources disent que les échanges ont tourné principalement autour de l'activisme du groupe rebelle ADF dans les territoires de Beni. Cette rébellion, dont la majorité des combattants sont ougandais, a multiplié ces dernières semaines les attaques dans la région. Ainsi, Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni travaillent ensemble depuis déjà plusieurs mois pour accentuer la collaboration entre les armées congolaises et ougandaises pour la neutralisation de cette rébellion. L'échange des informations et des renseignements est l'option jusque-là privilégiée par les FRDC et l'UPDF, l'armée ougandaise. Signalons qu'en Ouganda, Félix Tshisekedi était accompagné également par les ministres de la Défense nationale, son conseiller spécial en matière de sécurité, les patrons de l'ANR et les gouverneurs militaire du Nord Kivu. Depuis Pondwe, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, la chef de la MONUSCO condamne la multiplication des messages incitant à la haine tribale, à la violence et à l'hostilité entre les communautés, situation observée dans plusieurs provinces du pays, y compris à Kinshasa. Mathias Gilman, porte-parole de la mission onusienne, a rapporté ce message de la chef de la mission hier au cours de la conférence de presse de l'ONU à Kinshasa. Les propos de Mathias Gilman recueillis par Honoré Missenga Kalala.
C'est particulièrement vrai et particulièrement inquiétant dans les zones qui sont le plus
plus touchés par la violence armée, mais on a aussi constaté une recrudescence de ces messages de haine, de ces appels à la haine tribale, à la haine ethnique, ici à Kinshasa, dans le Maindombe, dans le Katanga. Donc c'est vraiment une problématique nationale, et encore une fois, dans le contexte d'une montée en puissance et d'une mobilisation des forces de sécurité, il est absolument important que tous les Congolais se mettent derrière leur armée et fassent preuve d'une cohésion nationale. La cohésion nationale est extrêmement importante pour arriver à neutraliser les groupes armés et à créer un environnement protecteur, une atmosphère qui permette la restauration de l'autorité de l'État, là où l'État est encore trop faiblement présent.
Par ailleurs, le porte-parole de la MONUSCO ajoute que la mission onusienne encourage le Parlement congolais à adopter la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie, proposition en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Vous le savez, Vital Kamerhe, Djamal Sami et Jeannot Mouima ont été condamnés mardi respectivement à 13 ans de prison, 6 ans et 1 an par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors que le taux de la peine était de 20 ans, le mardi, le juge d'appel n'a donné le motif de la réduction des peines. Qu'est-ce qui a donc motivé cette décision au second degré, Jeff Ngoy?
Il nous revient du greffe pénal de la cour d'appel que, faute de temps matériel, le juge a rendu son verdict sur dispositif, donc sans exposer sur les motifs. C'est maintenant qu'il est en train de rédiger le préambule afin de justifier sa décision dont les avocats pourront prendre connaissance. Mais selon le greffe, les circonstances atténuantes ont guidé le juge d'appel qui a tenu compte du comportement des prévenus durant leur détention. Toujours d'après le greffe, le taux des peines était exagéré au premier degré. Pour le Libanais Djamal Sami, son âge avancé aurait joué dans cette réduction des peines. Pour lui et Vital Kamerhe, le juge d'appel confirme le détournement de plus de 48 millions de dollars et condamne d'abord Kamerhe à 12 ans. En cumulant le détournement d'un million de dollars avec Jeannot Mouima, cela donne un total de 13 ans en définitive. Il reconnaît l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État coupable de détournement de corruption avec inéligibilité de 5 ans au terme de sa peine. Il le décharge du blanchiment de capitaux, contrairement à Djamal. Toutes les parcelles des condamnés acquises en période suspectée et la somme de 7 millions de dollars de Kamerhe logés dans une banque sont ainsi saisies.
Entre-temps, l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, demande à ses députés de suspendre leur participation aux réunions de la plateforme politique CASH et de l'Union Sacrée, le temps de procéder à une évaluation de leur accord de Nairobi signé avec son partenaire UDPS. C'est le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, qui a fait cette annonce hier devant les sympathisants et cadres de cette formation politique de Vital Kamerhe ici à Kinshasa. C'était à l'issue d'une importante réunion qui a réuni le comité dirigeant et la majorité des hauts cadres du parti. Cette réunion a été convoquée afin de statuer sur le verdict en appel réduisant la peine de Vital Kamerhe à 13 ans des travaux forcés, verdict que l'UNC qualifie de parodie de justice. D'après Billy Kambale, les discussions se poursuivent au niveau du parti pour lever des options, mais en attendant, l'UNC va mener une opposition farouche à l'injustice, a-t-il dit. Revenons sur le refus par le Sénat de lever les immunités parlementaires de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et le rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi portant habilitation. La dynamique pour une sortie de crise d'ISOC estime que par ces faits politiques, la requalification de la majorité de l'Union sacrée de la nation est en perte de vitesse. Dans un point de presse hier à Kinshasa, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur de cette plateforme politique, membre de la MUCA, demande au président de la République d'en tirer toutes les conséquences politiques et juridiques. Lisanga Bonganga le dit à Paul Matendo.
Cette même majorité qu'on croyait écrasante et stable dans les deux chambres du Parlement se trouve aujourd'hui en perte de vitesse au regard du refus par le Sénat d'élever les inimités de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, réclamé par la justice, et le rejet sans pitié du projet de loi d'habilitation par l'Assemblée nationale, mettant ainsi en cause la confiance de celle-ci vis-à-vis du gouvernement Samalou Kone. La DISOC note que la fameuse majorité jadis vantée par le président Félix Tshisekedi de son gouvernement vient aujourd'hui de démontrer sa vraie face budgétivore en désavouant son mentor des circonstances. La DISOC demande au président Félix d'en tirer toutes les conséquences politiques et juridiques.
Notez qu'au cours de ce même point de presse, la DISOC a également rejeté la loi organique portant organisation de la CENI, telle que modifiée dernièrement par le Parlement, car elle contient, selon Lisanga Bonganga, des germes d'un conflit. L'enfant africain a été célébré hier, entre-temps au Kassai oriental. Un élève du complexe scolaire Saint-Léon de Mbujimayi est mort par balle. Ses collègues condamnent cet acte avec la dernière énergie. Dans une déclaration le mardi lors des manifestations de colère des étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM Mbujimayi, les élèves du collège Saint-Léon ont demandé aux autorités de poursuivre en justice toute personne impliquée dans ce meurtre. Un extrait de leur déclaration, lu ici par l'élève Davina Kapinga de la 6e année coupée couture.
Nous, élèves du collège Saint-Léon, avec beaucoup d'amertume et de larmes aux yeux, nous condamnons avec la dernière énergie de tels actes. Nous ne voulons plus être victimes de tels sorts dans l'avenir. Nous lançons un cri de détresse à tous les défenseurs des droits de l'homme et de l'enfant, à toutes les autorités politico-administratives de notre province, de poursuivre en justice toute personne impliquée dans cette affaire, à répondre de cet acte qui a porté atteinte à la vie de l'un de nous qui est mort. Nous souhaitons aussi que la famille de notre collègue tué soit prise en charge, ainsi que nous, sa famille scolaire du Grand Baobab de la province du Kassai oriental, pour l'organisation des obsèques dignes de sa mémoire avant vendredi 18 juin 2021, date de son enterrement. Que la justice soit faite.
Province du Tanganyika, la sous-division de l'EPST Kongolo 1 a lancé officiellement cette semaine l'enseignement à distance dans la ville de Kongolo. L'événement s'est déroulé à l'école primaire Bapema. En présence des autorités scolaires, le projet qui cible l'ensemble des enfants du centre-ville de Kongolo et ses environs bénéficie d'un appui de l'UNICEF. François-Xavier Mibé nous en parle.
C'est le chef de sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a lancé officiellement le programme. Un lancement qui vient d'être suivi par un atelier de renforcement des capacités de parents d'élèves. 510 membres de comité des parents viennent d'être formés avec l'objectif de constituer un noyau des sensibilisateurs d'autres parents afin de suivre les enseignements à distance que diffuse Radio Kapi. Le chef de sous-division de l'EPST Kongolo 1, Mwenge Bin Pungu.
Il y a 102 écoles qui sont ciblées, 51 pour la sous-division de Kongolo 1 et 51 pour la sous-division de Kongolo 2. Il faudra que les parents aident les enfants à la maison à pouvoir les suivre. Les enfants ciblés, ce sont les enfants de 3 à 14 ans.
Cette activité amorcée doit permettre aux enfants, avec l'appui de leurs parents, de pouvoir récupérer les retards accumulés pendant 2 mois à cause de la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19. Le chef du projet à la Caritas, Crispin Nawej.
Le parent a le devoir de pouvoir soutenir cette éducation même si on est à la maison.
L'enseignement que diffuse Radio Okapi doit être relayé par la radio communautaire locale, la RTU, Radio Télé de l'Unité de Kongolo. Un projet qu'exécute la Caritas Développement en partenariat avec l'UNICEF. Kalemi, François Diabemibé, Radio Okapi.
Et puis, Radio Kapi poursuit son enquête sur le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce matin, nous essayons de comprendre comment le gouvernement congolais a abandonné ce projet si important pour la survie de la population, et ce, après y avoir dépensé plusieurs millions de dollars. Pour cela, Radio Kapi a approché certains ministres honoraires impliqués autrefois dans la conception et ou la mise en œuvre de ce parc agro-industriel. C'est pour les uns, si pour les uns, ce projet a simplement été abandonné par leurs successeurs, d'autres affirment ne pas vouloir s'exprimer dans les médias, préférant réserver leur version des faits à la justice au moment opportun. Michel Kifindangoy nous explique.
On le sait, l'argent est le nerf de toute entreprise économique. Si on veut savoir pourquoi un projet bloque, le premier regard est tourné vers les finances. Radio Okapi, dans cette enquête, a contacté Patrice Kitebi, ancien ministre des Finances du gouvernement Matata Mponyo. Il dit avoir compris l'importance du projet Bukangalonzo et avoir fidèlement décaisser chaque mois les fonds qu'il fallait pour la continuité du projet. Mais il refuse d'en dire plus, promettant de s'étendre sur cette affaire lors du procès. Contacté à son tour par Radio Okapi, son successeur, Henri Yves Moulang, ministre des Finances du gouvernement Matata Puissami Badibanga, s'abstient de tout commentaire avant le procès. Au regard d'un tel échec, alors que plus de 25 millions de populations souffrent de la malnutrition, il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qui a motivé cet arrêt brutal brusque des financements du projet d'une si grande importance? Qui a ordonné l'arrêt du projet Bukanga-Lonzo? Et en définitive, qui en est le vrai auteur de la débâcle? Seule une justice indépendante pourra rétablir les responsabilités.
Actualité Afrique Monde.
VivaTech, le plus grand salon européen dédié à la technologie, s'est ouvert à Paris. Il y était question des secteurs de la tech africaine avec le président français Emmanuel Macron à l'origine de l'initiative Digital Africa. Ce projet est destiné à soutenir financièrement les jeunes entreprises africaines du numérique. Preuve que l'Afrique est un réservoir des talents numériques. En 2019, les startups africaines ont attiré plus de 2 milliards de dollars d'investissement selon le rapport annuel par Tech Africa.
L'invité.
Après avoir constaté la débâcle en dépit de tout ce qui a été investi à Bukanga-Lonzo, le gouvernement Ilunkamba a tenté de relancer ce projet, mais la production qui s'en est suivie est aujourd'hui abandonnée selon plusieurs sources. Pour s'en imprégner, un groupe de députés est descendu à Bukanga-Lonzo pour mener une enquête parlementaire. Après constat de l'abandon de plus de 6000 tonnes de maïs dans les champs, ces députés dénoncent ce qu'ils qualifient de sabotage. L'un d'eux, Ado Ndombasi, élu de Kinshasa, est l'invité de Radio Okapi ce matin. Il répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Ados Ndombasi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené une enquête sur Bukanga-Lonzo et vous avez même présenté une motion d'information quant à ce. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre enquête?
Merci pour cette question. Il faut le dire que j'étais pas seul. Nous étions accompagnés des députés nationaux Eliezer Damoué, Ogi Kalonji, Chéribin Okende, actuel ministre des Transports. Nous sommes allés pour le compte de l'Assemblée nationale comprendre ce qui se passait réellement au niveau du parc de Bukanga-Lonzo. Et je peux vous le dire que nous avons été stupéfaits de remarquer comment, bien sûr, le parc était abandonné, comment le maïs était totalement abandonné. Le gouvernement congolais a, pour moi, je peux le dire, a refusé de mettre les moyens financiers pour récupérer ce maïs. Plus de 6000 tonnes de maïs, c'est-à-dire 6 millions de kilos. Je suis choqué, très choqué, parce que nous avons appris aussi qu'il y a une firme canadienne qui souhaiterait acheter le parc de Bukanga-Lonzo, donc la concession, pour y planter du cannabis. Il faut se poser la question, est-ce que le Congolais a besoin de chanvre ou le Congolais a besoin de maïs? Il est bien clair qu'en République démocratique du Congo, nous sommes un pays où 27 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire. Maintenant, au lieu de récolter ce maïs qui peut aider la nation congolaise, non, ce maïs est en train de moisir, le maïs est en train de pourrir. À cet instant, il y a plus de 800 hectares de maïs à l'abandon. Et le personnel de Bukanga-Lonzo est en grève parce qu'ils sont impayés. Mais nous apprenions aussi qu'il y a une autorité de la présidence de la République qui aurait dit que ce qui Masangwane Kopola et Polanango est à l'Ingaïti. Non.
Donc ça veut dire si ce maïs...
Si ce maïs va pourrir, moisir ou pourrir, qu'il moisisse, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est l'un des responsables de la présidence qui aurait formulé ces propos. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le parc de Bukanga-Lonzo est victime d'un sabotage.
Et qui profiterait à ces sabotages?
Un sabotage, je pense aussi parce que aujourd'hui, nous avons dans ce pays, il y a des gens qui entretiennent tous ces expatriés, les importateurs de vivres, certains étrangers qui sont dans le commerce aujourd'hui, qui ne veulent pas aujourd'hui que la République démocratique du Congo se sécurise sur le plan alimentaire. Ils sont dans les affaires, ils veulent impérativement que nous continuions éternellement à être des importateurs. Non ! Dans notre hymne national, il est dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Il est grand temps d'assurer la grandeur du Congo. Dans notre hymne national, on nous dit « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Ce n'est pas par les dons, ce n'est pas par les offrandes que nous allons bâtir un pays plus grand qu'avant. C'est par le labeur, par le travail. Nous avons presque 80 millions d'hectares de terres arables. Mais comment est-ce que nous pouvons abriter les gens les plus pauvres au monde? 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc, c'est pour cela que j'ai présenté cette motion d'information et je suis très content parce que le président de la Semaine nationale m'a demandé de venir dans son bureau dès demain pour interpeller, bien sûr, le ministre de l'Agriculture et voir comment régler cette situation en urgence.
En même temps, l'IGF a dénoncé des détournements de fonds qui ont accompagné ce projet, alors que la société sud-africaine Africom, qui est déjà rentrée chez eux, pense que ce projet était à même d'alimenter presque toute l'Afrique en vivres, mais elle était aussi choquée de voir que le gouvernement congolais a arrêté brusquement les financements.
Oui, vous savez, moi je ne vais pas entrer dans tous ces conflits. Le plus important pour moi en tant que député national, j'ai l'intérêt de sécuriser les intérêts du peuple congolais. Bukanga Lonzo appartient au peuple congolais. C'est de l'argent du contribuable congolais. J'essaie d'éviter les polémiques, mais ce que je sais, que Bukanga Lonzo est un très bon projet. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les détournements, toutes les bêtises, je sais que c'est un bon projet et que si on y met une conscience, comme vous venez de le dire, Bukanga Lonzo peut d'abord devenir un réservoir pour la République démocratique du Congo. D'abord pour la République démocratique du Congo. Mais aussi, Bukanga Lonzo va donner de l'emploi à des milliers de Congolais. Et pour clôturer, Bukanga Lonzo, sa sous-station électrique a la capacité d'alimenter tout le Kwango. Mais comment un tel projet peut être à l'abandon? Ça n'a aucun sens, cher ami. C'est pour ça que je dis que ce projet est victime de sabotage. Je suis sûr, par certains Congolais, mais aussi par certains expatriés qui ont envie que le Congolais reste incolonisé sur le plan alimentaire. Merci beaucoup. Merci, cher ami.
Le député élu de Kinshasa, Adondo Mbassi, était avec Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rong Mouchinj. Merci de nous avoir suivis.